Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour. Un enseignant n'a pas donné un médicament à un élève. Le médecin cantonal jurassien rappelle la loi fédérale. Fini le cachet pour un petit mal de tête. Une circulaire sera envoyée aux établissements scolaires. Il sera peut-être bientôt possible de percevoir des subsides de formation jusqu'à 50 ans. Le gouvernement jurassien propose de rehausser la limite d'âge, aujourd'hui plafonnée à 35 ans. Un projet a été transmis au Parlement. Un violent braquage au Locle ce matin. C'est la manufacture Vertanor qui a été visée. Les malfrats ont fui en franchissant la frontière française sans pouvoir être arrêtés malgré une prise en chasse. Après la pluie, un ciel encore partagé entre nuages et éclaircies annoncé demain. Le soleil s'installera pour les jours suivants. Température en nette baisse, pas plus de 2 degrés demain en pleine. On restera sous le zéro aux Franches-Montagnes. Donner un cachet à un élève qui a mal à la tête ou mal au ventre, ce n'est pas le rôle des enseignants. Ce ne sont pas des professionnels de la santé, rappelle le médecin cantonal. Entré en fonction fin d'année passée, Mathieu Vermeil veut remettre les points sur les i et faire respecter la loi fédérale. Une circulaire pour rappeler la règle sera distribuée prochainement dans les cercles scolaires primaires et secondaires ainsi qu'au CEGEF. Le médecin cantonal Mathieu Vermeil.
En Suisse, on a mis en place des articles de loi qui décrivent qui sont les professionnels qui peuvent prescrire ou administrer des médicaments. Et les enseignants accompagnent l'élève. Il n'est pas souhaité que ce soit des auxiliaires de soins. Ils ne sont pas aptes à prescrire des médicaments.
Et pourtant, aujourd'hui, ils le font, d'où cette piqûre de rappel?
Je n'ai pas de preuve que des médicaments ont été remis, mais par contre, il y avait des pharmacies scolaires et il n'est pas souhaité que des enseignants puissent remettre, suivant leur évaluation d'un état de gravité, des médicaments à un mineur.
Est-ce que si un élève se plaint d'un mal de tête et on interdit à une enseignante ou un enseignant d'administrer du paracétamol, on n'est pas un petit peu dans l'exagération?
On n'interdit pas à l'enseignant, on rappelle qu'il n'a pas été jugé apte à évaluer une situation clinique et à administrer un médicament. Très probablement, un enfant ou une personne adulte qui a un maux de crâne, en général, elle est déshydratée avec un temps de repos adéquat et puis des liquides clairs, elle aura ses symptômes qui disparaîtront.
Ça veut dire que des fois, on peut se tromper, on part d'une bonne intention en donnant un médicament qui pourrait finalement ne pas être utile ou ne pas être le bon, ce qui pourrait avoir des conséquences peut-être plus graves.
Tout à fait, un médicament n'est jamais anodin. Il peut cacher des symptômes qui vont faire qu'une maladie va peut-être se compliquer et il est souhaité qu'une personne qui ait besoin d'une évaluation clinique obtienne une évaluation par un spécialiste dans un délai raisonnable.
Peut-être le revers de la médaille, interdire aux enseignants d'administrer des médicaments aux élèves, ce n'est pas mettre en danger quelque part ces élèves?
Je pourrais retourner la question en demandant est-ce qu'il est adéquat en 2025 de permettre à des non-professionnels de la santé de faire une évaluation clinique et d'administrer des médicaments pour lesquels ils ne sont pas reconnus compétents par l'État, l'État de droit suisse. Encore une fois, je n'interdis aucune mesure, je fais un simple rappel à la loi sur les produits thérapeutiques qui est en vigueur depuis l'an 2000.
Mathieu Vermeil qui répondait à Raphaël Chalvera, entretien à réécouter sur rfj.ch. Le médecin cantonal a déjà rencontré les directions des écoles secondaires, il échangera avec celles du primaire mardi prochain. Une initiative cantonale officiellement lancée. Le Parti socialiste jurassien souhaite que les entreprises subventionnent aussi les crèches. Il l'avait annoncé fin d'année dernière. Le texte publié aujourd'hui dans le journal officiel est intitulé « Impliquer les entreprises dans les structures d'accueil de l'enfance. Un avenir assuré pour les familles jurassiennes ». Les initiants ont un an jusqu'au 12 février 2026 pour récolter quelques 2000 signatures. Obtenir des subsides de formation au-delà de 35 ans, ce sera peut-être bientôt possible. Le gouvernement jurassien propose d'augmenter la limite d'âge pour obtenir ces aides. Il a transmis au Parlement un projet de révision partielle de la loi selon un communiqué diffusé aujourd'hui. L'exécutif donne suite à une motion qui avait été acceptée par le législatif en 2022, Michel Léoni.
Aujourd'hui, d'après la loi jurassienne, aucun subside ne peut être octroyé à une personne qui a plus de 35 ans au moment de commencer sa formation. Une exception est toutefois prévue à 40 ans s'il s'agit d'une reconversion pour des raisons médicales ou alors pour les personnes ayant passé au moins 4 ans au foyer à élever les enfants. Le gouvernement cantonal propose désormais de fixer l'âge limite à 50 ans pour obtenir des subsides de formation. Cela doit permettre aux personnes qui obtiennent cette aide d'exercer une activité pendant au moins 10 ans après la fin de la formation et jusqu'à la retraite. Les autorités se sont basées sur les solutions prévues dans les autres cantons pour établir une limite, je cite, dans la moyenne suisse. D'après les estimations qui ont été faites, le coût de cette révision pourrait se situer entre 130 000 et 220 000 francs par année.
Et le canton rappelle que l'âge n'est pas la seule condition à l'obtention d'une aide financière. D'autres éléments sont pris en compte, comme la situation financière des parents, quel que soit l'âge du demandeur. Comédien sur scène, mais aussi technicien en coulisses, la troupe de théâtre de l'US Mofocon retrouve les planches demain soir avec La boutique au coin de la rue, sa nouvelle pièce. Une comédie écrite par le Hongrois Miklós László, mise en scène par Manon Aubry et interprétée par 12 acteurs de la compagnie montfalconnaise. Elle se déroule dans un magasin de jouets, dans un restaurant, et a donc nécessité la création de différents décors. Des comédiens qui ont dû aussi endosser le costume de machiniste. Nicolas Meusy a pu le constaté hier soir lors de la répétition générale. Reportage.
Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes levé du pied gauche ce matin? Oh, moi j'ai passé une soirée!
Sur les planches, la pièce se joue, mais en coulisses, on patiente. 5 comédiens ont pour mission de changer les décors entre les différentes scènes et notamment de s'occuper de 2 grandes parois accrochées au-dessus des acteurs. Grâce à un système automatique de poulies et en appuyant sur une télécommande, Yannick Sautebin va pouvoir faire monter ou descendre la façade du magasin de jouets.
Là, j'attends que tous les vendeurs rentrent, là. La porte est fermée et là, je remonte, là. Je monte la paroi.
Et là, maintenant, vous allez sur scène.
Et là justement, je vais aller sur scène avec ma fille Juliette.
Cette double casquette comédien-technicien, Yannick Sautebin a su s'en accommoder.
Franchement, maintenant, je le gère bien. Je vais pas vous mentir que quand on sera à la première vendredi 14 février, que j'aurai pas le train, que ça je peux pas le dire. Mais je suis confiant en toute l'équipe aussi. Et puis il y a aussi une équipe décor qui a tout préparé pour monter les décors, pour les peindre, pour que ça soit vraiment quelque chose de solide. Et puis on va mettre en avant l'équipe des décors. Quoi.
Dis-moi, est-ce que c'est vrai que Monsieur Corsina se fait des gommages?
Je ne sais pas, il n'en a pas parlé.
Pour confectionner tous les décors, la compagnie théâtrale de l'US Mofocon peut compter sur une équipe de 15 personnes, 250 heures de travail et 4000 francs alloués, soit un cinquième du budget. Une motivation de faire pour créer des décors qui sont une réelle plus-value aux yeux de la metteuse en scène Manon Aubry.
Les décors, ça amène tout de suite dans un univers. Et là, l'univers est très important pour la pièce. Et puis, comme il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à la mise en scène, c'est hyper important de tout caler, de tout préciser, c'est millimétré. Jusqu'à la semaine passée encore, on faisait des modifs et tout, donc on espère toujours le « waouh » quand ça s'ouvre. Et je pense que cette année, oui, on va l'avoir, ça sera cool.
Encore quelques heures de patience avant la première représentation publique et les « waouh » des spectateurs pour les décors, mais aussi le jeu des acteurs.
Risque, c'est un très bon choix.
Ce n'est pas un jeu que je cherche.
Des Lego?
Non plus.
Une poupée ou une Barbie?
Non, à vrai dire, je ne suis pas venue ici pour acheter.
Et la première de la pièce, La boutique au coin de la rue, aura donc lieu demain soir à la salle de spectacle du village. 14 représentations sont prévues jusqu'au 22 mars. Un violent braquage au Locle ce matin. La manufacture Vertanor a été la cible d'une attaque à main armée vers 7h20. Les auteurs qui circulaient à bord d'une voiture immatriculée en France sont repassés de l'autre côté de la frontière peu après. Ils ont été pris en chasse par les forces de l'ordre entre Morteaux et Pontarlier, mais n'ont pas été arrêtés. Georges-André Lozouet, le porte-parole de la police neuchâteloise, revient sur le déroulement de ce braquage.
Sous la menace d'armes à feu, ils ont contraint les employés à leur remettre des marchandises. On parle ici de métaux précieux. Et lors des faits, un employé était frappé par un des auteurs et blessé. Il a ensuite été pris en charge par une ambulance. Alors, l'alarme a été rapidement donnée. La police neuchâteloise a déployé un important dispositif de recherche qui a été appuyé notamment par un hélicoptère des forces aériennes, mais également par les agents de l'Office fédéral de la sécurité aux frontières. Les autorités françaises, de leur côté, ont également déployé un dispositif dans le département du Doubs avec des moyens de gendarmerie et de police nationale.
L'entrée en force des individus a été assez violente. J'imagine que pour les employés, ça a dû être choquant.
Pour les employés qui étaient présents, une vingtaine de personnes, une prise en charge psychologique a été organisée. Elle est en train de se dérouler actuellement. Et effectivement, les personnes qui ont été exposées à cette violence bénéficieront donc de cette prise en charge.
Georges-André Lozoué avec Sarah Massy. On ignore encore le montant du butin. Même en Suisse, les Tibétains et les Ouïghours ne sont pas en sécurité. Le gouvernement chinois les espionne et fait pression sur ces communautés. C'est ce que révèle un rapport demandé par le Parlement et adopté hier par le Conseil fédéral. Il évoque une répression quotidienne de ces minorités tibétaines et ouïghours installées en Suisse. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
La République populaire de Chine surveille étroitement les activités de la diaspora suisse. Des agents chinois se font passer pour des diplomates, des journalistes ou des étudiants pour infiltrer les manifestations tibétaines et ouïghours. Le rapport révèle que le gouvernement chinois fait pression sur des membres de la communauté pour qu'ils espionnent leurs compatriotes. Et des cyberattaques visent régulièrement la diaspora, mais aussi des ONG et des journalistes. La République populaire de Chine tente aussi d'intimider les Tibétains et les Ouïghours installés en Suisse pour qu'ils ne critiquent pas le régime et ne s'engagent pas dans des activités politiques, par exemple en les harcelant par téléphone ou en les menaçant d'arrêter des membres de leur famille restés en Chine. Des agents chinois tentent aussi de museler les Tibétains et les Ouïghours en leur proposant des avantages financiers ou des autorisations de voyager.
Et la Société pour les peuples menacés et le Parti socialiste demandent un plan d'action pour lutter contre la répression transnationale. En France, la police recherche toujours activement un homme qui a fait 12 blessés ce matin. Il a jeté une grenade dans un bar à Grenoble. L'individu a lancé l'objet dans un établissement d'un quartier sensible. Deux personnes ont été gravement atteintes. L'individu qui a lancé la grenade a pris la fuite. Il aurait aussi été muni d'une Kalachnikov, mais il n'est pas certain que l'arme ait été utilisée selon les enquêteurs. La piste terroriste a été écartée pour le moment et celle du règlement de compte est privilégié.
Vous écoutez RFJ, il est 12h27.
RFJ, sport.
Philippe Michael Devos portera le maillot du HC Ajoie au moins 3 ans de plus. Le Québécois a prolongé son contrat de 4 saisons, dont une avec option avec l'équipe ajoulotte de National League de hockey sur glace. Déjà là depuis 10 ans, l'attaquant de 34 ans est désormais lié avec les Wivres au moins jusqu'en 2028. Depuis ses débuts au HCA, le Canadien a disputé 527 matchs, inscrit 722 points et il a remporté 2 fois le championnat de Swiss League, connu la promotion à National League et soulevé la Coupe de Suisse. Laragout Bérami peut encore espérer décrocher une 10e médaille mondiale. La skieuse tessinoise a pris ce matin le 4e rang de la première manche du géant des championnats du monde à Svalbard. Elle est à 16 centièmes de la 3e, l'américaine Paola Moltzan, et à 73 centièmes de la 2e place de la néo-zélandaise Alice Robinson. La piste autrichienne découpée, dominée par l'italienne Federica Brignone avec 1 seconde 40 d'avance sur la Suissesse. Les autres Helvètes sont reléguées à plus de 3 secondes. Camiras 13e, Weldy Holdener 17e ou encore Michel Gisin 26e. La 2e manche débutera à 13h15. Faute de neige, les organisateurs de la Franche Nordique prennent des mesures. La course de ski de fond des adultes prévue dimanche et qui compte pour la Swiss Lopette et le Viteo Ski Tour est annulée. C'est un communiqué diffusé hier soir par le ski club de Seignelay-Gier qui nous l'apprend. Par contre, la course des enfants est maintenue et se tiendra dimanche dès 10h sur les hauteurs de Montcrozin. Les SR de Léman, eux, vont lancer leur opération survie ce week-end. Reprise du championnat de Promotion League de football avec un déplacement sur le terrain de la réserve du FC Zurich samedi à 18h. Les SRD sont 14e à seulement 1 point de la zone de relégation. L'objectif, il est très clair pour le 2e tour, c'est le maintien à tout prix pour l'entraîneur de Les Montains, Anthony Sirofo, qui était l'invité de la matinale.
Il faut y aller par étapes. Pour l'instant, il y a classement. On voit que c'est très serré. Je crois qu'entre le dernier et le 8e, il n'y a que 10 points. Donc forcément, au départ, on veut gagner les matchs au début de la reprise pour essayer de se sortir de la zone. Ça, c'est un premier temps. Et puis après, on se rend compte que si on arrive à faire des bons résultats, on peut assez vite recrocher une place plus honorable dans le classement. Donc on va y aller par étapes. En tout cas, la reprise samedi sera déjà très importante, en effet.
5 victoires en 5 matchs de préparation contre des équipes de tous les niveaux, même une Challenge League. C'est un bilan quand même qui est plutôt prometteur pour commencer le championnat.
Ouais, ça nous donne beaucoup de confiance. Je pense que c'était dans la continuité de ce qu'on avait fait au premier tour, où prise de conscience, comme on avait continué à proposer du bon foot, je veux dire, on avait quelques automatismes. Et quand on a réussi à y mettre l'efficacité, ça a été très bien. La préparation nous a donné quelques garanties, en tout cas sur le point défensif, où on n'a pas encaissé de but, ça c'est une très bonne chose. Et puis on a de la qualité, Et puis, ça s'est plutôt bien passé, ouais, en effet.
Anthony Sirufo dans la matinale avec Loïc Georgi. Entretien complet sur la reprise des SRD à retrouver sur notre site internet rfj.ch.
RFJ Sport.